Merci d'écouter les programmes de Studio Kalangu. Il vient d'être à 17h. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Un vent suivi de poussière intense s'observe dans toutes les régions du Niger depuis le début du mois de février. Tout de suite à des précisions sur ce phénomène avec le directeur général de la météorologie nationale. Au Niger, la prévalence des mutilations génitales féminines est de 0,7%. C'est ce qu'a indiqué au studio Kalangu le CONIPRAT à l'occasion de la journée internationale à tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales célébrée hier 6 février. Le magazine du jour fait le point sur la campagne de vaccination du cheptel dans les zones pastorales du Niger, l'exemple à Tchéné dans le département de Boboye. Depuis le 5 février, un vent suivi de poussière intense souffle sur presque toutes les régions du pays. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur la santé des personnes, d'où cet appel à plus de prudence. Kachalala Wangapcha, directeur de la météorologie nationale, donne des précisions au micro de Hassan Nour Abdrahman.
Nous avons globalement deux types de sources au Niger. Tous les déserts que vous voyez, ça constitue une source de poussière parce qu'il y a des particules qui sont déposées et qui sont mobilisables une fois que le vent d'un certain seuil arrive à passer au-dessus pour les entraîner en aval. Mais nous avons une source qui est bien connue à travers le monde, qui est la dépression de Baudelaire, qui se situe sur le Tchad, ici, à ces environs-là, et qui est pratiquement la source la plus importante au monde de poussière. C'est l'ancien lit du lac Tchad. Donc, protéger les plus vulnérables, surtout les enfants, qui sont souvent exposés à ces poussières-là, mais également des sujets qui souffrent des respiratoires aigus, par exemple les asthmatiques. Il va falloir véritablement se protéger contre ces poussières-là. Donc quand il y a un véhicule, il faut que tu sois très prudent. Quand il y a la poussière, il faut quand même arriver à bien réguler un peu ta vitesse pour ne pas vraiment aller mettre des incidents.
La situation épidémiologique de la diphtérie dans la région d'Agadez à la première semaine du mois de janvier 2024, à cette date, fait état de 70 malades enregistrés, dont 7 décès selon les services sanitaires. On note à ce jour une diminution des cas due à la prise en charge des patients et la sensibilisation. Écoutons Mohamed Lawali, chef service programmation et information sanitaire à la DRSP, interrogé par Anissé Karim.
Donc nous totalisons un cumul de 70 cas avec malheureusement 7 décès. On constate une bonne amélioration parce qu'il y a une diminution des cas et une diminution aussi de la létalité. La dernière semaine, nous venons d'enregistrer 10 cas. Si on compare avec les autres semaines ou à la semaine 4 exactement, on a eu un cumul de 29 cas. Donc ça veut dire qu'il y a une très bonne amélioration de cette maladie. Les mesures qu'on est en train de prendre, en tout cas, c'est la poursuite de la prise en charge de tous les cas, la sensibilisation de la population à travers la vaccination des enfants de moins d'un an pour les PEV de routine et la fréquentation des structures aussi à temps. On sensibilise aussi la population pour éviter l'automédication. Aussi, plus le malade est vu à temps, plus en tout cas la maladie est très bien prise en charge. Donc nous invitons la population de suivre ces règles pour le bien-être de cette dernière.
Le Niger a célébré hier 6 février la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Ce sont des millions de personnes qui sont victimes de cette pratique néfaste. Ces pratiques ont des conséquences sanitaires et psychologiques sur leurs victimes. Madame Amina Abdoukamso, communicatrice du comité nigérien sur les pratiques traditionnelles, explique la situation du Niger au micro de Rafia Mossi.
Les mutilations génitales féminines sont des pratiques traditionnelles qui consiste à l'ablation totale ou partielle de l'organe génital de la femme. Et ces pratiques sont sous 4 formes. Selon les résultats des enquêtes démographiques et de santé, la prévalence nationale des mutilations génitales féminines est passée de 5% en 1998, puis 2,2% en 2006 et à 2% en 2012. La reconversion des exciseuses, vraiment, ça a amené à une réduction de ce taux. Mais cela n'empêche, cette pratique n'est pas totalement en fait éradiquée dans le territoire nigérien. Mais aujourd'hui, la prévalence est de 0,7% selon une enquête réalisée par l'UNFPA en 2021 et de l'ONG CONIPRAT. Donc il existe des disparités régionales et ethniques.
En bref, le gouvernement nigérien a renouvelé l'interdiction des vols commerciaux entre le Niger et le Nigeria. Un communiqué publié le 3 février stipule, je cite, « En vertu des résolutions de la CEDEAO, tous les vols commerciaux du Niger vers le Nigeria ou du Nigeria vers le Niger ou du Niger survolant le Nigeria ou de tout État survolant le Nigeria vers le Niger sont suspendus. » Fin de citation. Selon le gouvernement nigérien, cette décision est la suite d'une décision de la CEDEAO adoptée en réponse aux événements intervenus au Niger le 26 juillet 2023 relatifs au coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum. L'ONG SOS Civisme organise à Zinder un atelier régional de partage et de renforcement des capacités sur les mécanismes de la lutte contre la désinformation, la cybersécurité et le fact-checking. L'atelier regroupe les hommes des médias, les acteurs de la société civile, les élus locaux et les web activistes. Ali Keita s'est entretenu avec Hadiz Ima de l'ONG SOS Civisme section de Zinder. On l'écoute.
Aujourd'hui, il y a un nombre important de médias dans le monde entier. Dans le temps, ce sont les journalistes professionnels qui donnent les informations. Mais de nos jours, tout le monde se permet d'être journaliste à travers les réseaux sociaux où les gens véhiculent des informations non fondées et fausses. Souvent, ce sont des événements d'un autre pays qui n'a rien à voir avec le nôtre que les gens partagent pour semer la terreur et la frustration au sein des populations. L'objectif de cette session de formation, c'est de revoir ces mauvaises habitudes afin de mettre un frein à ce genre de pratiques. Ces assises mettent aussi a priori les meilleures méthodes dans le traitement et la diffusion des bonnes informations fiables et vérifiées. Des informations qui contribuent à une stabilité dans le quotidien de la population.
Le président du conseil de ville de Maradi, Murtala Pakachatou, a pris part du 28 janvier au 1er février 2024 en Mauritanie à un sommet qui a regroupé les maires de la Ligue arabe et ceux des pays du Sahel. À cette rencontre des partenaires, la ville de Maradi a présenté la situation de l'école, un des quatre domaines de compétence. Pour le maire, ils ont choisi de parler de l'école parce que c'est un secteur qui rencontre des difficultés. On l'écoute au micro de Mohamed Maman.
La ville de Maradi dispose à ce jour de 666 classes en paillote et un déficit total de 1655 classes. Sur 45 000 élèves scolarisés, plus de 22 000 suivent les cours assis à même le sol. Le manque de latrines ordinaires ou adaptées aux enfants handicapés et accès à l'eau constitue entre autres des handicaps majeurs à la scolarisation et plus particulièrement à la scolarisation de la jeune fille et celle des enfants des handicapés. Sous mon autorité en tant que président du conseil de ville et en collaboration avec la coalition des associations, syndicats et ONG, un comité a été mis en place et s'est donné 3 ans pour transformer de manière radicale les conditions de scolarisation de nos enfants. Vraiment, nous pensons que et nous fondons l'espoir, Inch'Allah, qu'on aura beaucoup de partenaires qui vont être regardants par rapport à ce projet.
L'actualité est toujours en région au moment où le tronçon Ngingimi-Bilabrine frontière Tchad est terminé et Kichendi-Kablewa-Ngingimi avance. Des enfants procèdent au ramassage systématique du gravier aux abords de ces ouvrages. Cela peut endommager ces infrastructures obtenues à grands frais, a indiqué Habou Mamanbaki, directeur régional de l'équipement de DIFA. Il est au micro de Mani Moussa.
Les enfants s'adonnent à une activité qui consiste à enlever les graviers et à les vendre à vil prix. Cette pratique-là peut sérieusement endommager la route qui coûte des milliards pour quelques miettes de décennaires qu'ils peuvent avoir. Donc il vous convient vraiment à tout le monde, à tous les usagers, même si par exemple quelqu'un est en train d'apprenter le tronçon, quand il voit une activité de ce genre qui peut endommager la route, la personne peut s'arrêter et puis chasser les enfants et prendre leur matériel là qu'ils utilisent pour casser la route. C'est un combat commun. C'est pas évident que nous, à tout moment, qu'on soit sur le terrain en train de vérifier si telle ou telle personne est en train de faire ce genre de choses. Donc vraiment, c'est surtout les transporteurs, c'est à eux-mêmes d'ailleurs qui doivent être notre cheval de bataille dans ce combat-là.
Les incursions des groupes armés non étatiques dans la zone des trois frontières, une zone à vocation agro-pastorale, rendent difficile la pratique de l'élevage et conduisent les éleveurs à quitter définitivement ces espaces de pâturage. Que font les organisations des éleveurs au Niger pour aider les éleveurs de cette zone à surmonter leurs difficultés? Écoutons Boubacar Moussa, président du bureau du CAPANA, au micro de Ali Nyeli Abdoul Momoni.
En tant qu'organisation des éleveurs, ce que nous essayons de faire, c'est en amont, de sensibiliser les gens, d'identifier de loin quels sont les endroits qui sont susceptibles de vivre ce genre de choses et de partir vers des endroits qui sont stables. On demande toujours à l'État de créer les conditions pour avoir des espaces dans des endroits stables, pour créer les conditions de transhumance à l'intérieur du Niger. C'est au Bénin qu'ils sont obligés de partir, ou de l'autre côté au Tchad. Maintenant, au niveau du Bénin, ceux qui ont des grands troupeaux et qui ne veulent pas être là-bas, ils sont obligés de se naturaliser au Bénin parce que c'est la seule condition pour que l'État du Bénin accepte. Ils deviennent des Béninois et puis et leurs animaux, ils s'en vont et ils nous laissent ici au Niger avec des chiffres.
En sport, c'est l'avant-dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Côte d'Ivoire 2023. Plus que quatre nations jouent leur destin ce soir. La première demi-finale oppose ce mercredi à partir de 18h les Super Eagles du Nigeria au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Puis suivra la rencontre entre le pays hôte, la Côte d'Ivoire, et la RDC Congo. La partie magazine de ce journal, la campagne nationale de vaccination du cheptel se poursuit dans les zones pastorales du Niger. L'immunisation en cours des ovins et caprins dans le département de Boboye vise la lutte contre la peste des petits ruminants. À une dizaine de kilomètres de Birnengaouré, dans la localité de Tchéné, les éleveurs adhèrent à la campagne. Bien plus, ils acceptent facilement le marquage des animaux vaccinés. Le récit de Ali Niali Abdelmoumouni.
Des agneaux et des chevreaux au milieu d'un troupeau d'ovins et caprins rassemblés pour la vaccination à Tchéné, situé à une dizaine de kilomètres de Birnengaouré. Tahir Souley, chef de l'équipe de vaccination, nous explique son mode opératoire.
Aujourd'hui à Tchéné, nous avons pu administrer les vaccins PPR aux ovins et caprins pour les mettre à l'abri de la peste qui se manifeste chez l'animal par le coulement de la morve. Nous marquons chaque animal vacciné. Nous avons pu vacciner 220 ovins environ et 80 caprins. La fiche est établie suivant les genres.
Hommes et femmes provenant de Tchéné et ses environs ont amené leurs animaux pour la vaccination. Ramou, Aïssatou et Zainabou Bello témoignent des bienfaits de l'immunisation des animaux.
Autrefois, ils tombaient assez souvent malades, mais nous ne comprenons pas le pourquoi.
Nous élevons ovins, caprins et bovins. Quand on n'immunise pas, ils tombent malades. Il faut les traiter au service vétérinaire.
J'ai une chèvre. Avant, chaque fois, elle a la diarrhée. Mais aujourd'hui, elle se porte bien.
Savez-vous que le goût de la viande d'un animal vacciné diffère de celui non vacciné? Ramou et Zainabou Bello en savent quelque chose.
L'animal malade non vacciné, même si nous l'abattons pour manger en famille, sa viande n'a pas de goût et c'est gluant. Mais à présent que nous immunisons, la viande a un bon goût.
La bête jamais vaccinée, sa viande n'est pas fermée ce qui l'entre.
Curieux, n'est-ce pas? Tahir Souley, chef de l'équipe de vaccination, confirme cette différence de goût. Pendant la campagne de vaccination, les agents vétérinaires procèdent au marquage de l'animal vacciné.
Le marquage fait à l'oreille droite, c'est une valeur ajoutée. L'animal est vendu parce qu'il porte la preuve qu'il est suivi par les services vétérinaires.
Alors qu'autrefois, des éleveurs n'acceptaient pas le marquage, ils considèrent cela comme un défaut selon des croyances locales. Mais ils y adhèrent actuellement grâce à des séances de sensibilisation des ONG, associations des éleveurs et religieux.
Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite à nos journaux en langue nationale. Je vous retrouve à partir de 18h15 dans le forum de Studio Kalongo pour parler de l'engagement des femmes de l'Alliance des États du Sahel pour une sortie de crise des pays membres. N'oubliez pas d'écouter les journaux et les magazines sur le 3 du 5 avec la puce RTL gratuitement et le reste des productions sur l'application Studio Kalongo disponible sur Play Store.